C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, ce qui retient l'attention ce matin dans l'actualité, d'abord, c'est le conflit entre Israël et le Hamas. Une trêve a été conclue hier pour permettre un arrêt des combats et la libération d'otages. Ça a été confirmé mardi par Israël et le Hamas. Le Hamas va libérer 50 otages, 50 des 240 otages qu'il détient. Ça va se passer sur une période de 4 jours. En échange de la libération de ces 50 otages, Israël va libérer 150 Palestiniens. On dit que les Palestiniens qui seront libérés n'ont rien à voir avec l'attaque du 7 octobre dernier. Les libérations vont commencer environ 24 heures après que l'accord aura été approuvé par toutes les parties. L'accord inclut au moins 3 ressortissantes américaines, dont un enfant de 3 ans. D'ailleurs, ce seront essentiellement des enfants, des femmes et des enfants qui vont faire partie des otages échangés contre des prisonniers palestiniens. Et le gouvernement israélien a déclaré que la trêve serait prolongée d'un jour pour chaque dizaine d'otages supplémentaires libérés par le Hamas. Sauf que cet accord ne signifie pas la fin de la guerre. Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien, s'est d'ailleurs engagé à reprendre l'offensive israélienne contre le Hamas dès la fin de la trêve. L'objectif demeure le même, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël. D'ailleurs, on ira en Israël un peu plus tard dans l'émission pour avoir plus de détails sur cette avancée quand même assez majeure, faut le dire, là, parce que ça fait tout près de 50 jours que les combats font rage là-bas. Ça a fait des milliers de morts. Alors là, il y a une porte qui est ouverte. Est-ce que ça va mener à la libération de tous les otages éventuellement? Ce sera à voir. Plus près de nous, ben, il y a un sondage somme ce matin obtenu par la presse qui nous apprend que 7 Québécois sur 10 appuient les travailleurs dans le conflit qui oppose actuellement les syndiqués au gouvernement. Et ce qui est plus important encore, c'est que il y a davantage de gens qui sont directement touchés par le conflit, qui appuient les syndiqués. On pense d'abord aux parents d'enfants qui vont à l'école. C'est 79% des parents qui appuient les professeurs dans leurs revendications. 12% seulement donnent leur appui au gouvernement Legault. L'appui est un petit peu moins marqué chez les 65 ans et plus, mais c'est un peu normal, dit-on, parce que ces gens-là ont voté majoritairement pour la CAQ. Il faut dire qu'à 65 ans, là, t'as probablement plus d'enfants qui vont à l'école aussi, là. Ça fait que t'es moins impliqué par le conflit. Hier, c'était le premier jour de la grève du Front commun. Il y a eu des lignes de piquetage un peu partout. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, hier était là en point de presse. N'envisage pas pour l'instant de déposer de loi spéciale. Le gouvernement maintient sa position. On doit d'abord aborder les nombreux enjeux d'organisation du travail avant de s'attaquer aux questions salariales et les solutions qui seront mises de l'avant ne doivent pas forcer le gouvernement à ajouter des employés alors que dans plusieurs secteurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On va y revenir également sur ce conflit avec Éric Gingras plus tard dans l'émission. Et parmi les effets collatéraux de cette grève, hier, il y a une nouvelle qui nous annonçait que les brigadiers de la ville de Montréal avaient été mis à pied en raison du conflit, parce que là, on n'avait plus besoin d'eux, étant donné que les enfants ne vont pas à l'école. Mais finalement, en fin de journée, début de soirée, hier, on apprenait que finalement, ils ne seraient pas mis à pied. Les discussions vont se poursuivre aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on va leur demander de faire. Il faut savoir que des brigadiers, écoute, c'est un travail, là, c'est 3/4 de travail par jour. En Suisse de ça, c'est 40 semaines par année. En moyenne, les gens font 16 000 $. Les brigadiers ont plus de 50 ans et on a beaucoup de difficultés à recruter. Même que souvent, ce sont les policiers du service de police de Montréal qui doivent assurer le service de brigadier. Et un peu dans la même veine également, hier, il y a la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, qui a déclaré en commission parlementaire que les élus de l'Assemblée nationale ont créé une apparence de conflit d'intérêts en raison de leur empressement à s'accorder une hausse de salaire de 30 % de leur rémunération. Et ça, ça revient souvent dans les arguments qu'on entend là, dans ce conflit. Cette hausse de salaire que les politiciens se sont accordés, faut dire que c'est un projet de loi de la CAQ. Là. Il y a bien des politiciens qui étaient contre cette augmentation de salaire. Elle suggère qu'ils auraient peut-être dû faire entrer en vigueur cette augmentation de salaire après les prochaines élections. Parce qu'à ce moment-là, la perception aurait été différente, surtout qu'aucun d'entre eux n'aurait été sûr de revenir ou d'être réélu à ce moment-là. Mais c'est pas ça qu'on a choisi. Alors, ça fait partie un peu là, de tout ce qui est avancé par les syndiqués pour justifier les moyens de pression. Et l'autre chose, c'est évidemment ces 5 à 7 millions de dollars qu'on a promis pour la présentation de deux matchs hors concours à Québec. Les Kings contre les Panthers de la Floride et les Kings contre les Bruins de Boston. Là, on s'aperçoit que M. Girard, d'abord, lui, il a inscrit ça dans des moyens pour ramener les Nordiques à Québec. On en parlait tantôt avec Jérémy, ça n'a rien à voir. La Ligue, c'est très bien que les gens de Québec aiment le hockey. C'est pas deux matchs hors concours contre les Kings qui vont changer quoi que ce soit. Mais on a l'impression qu'Éric Jarre aime vraiment le hockey. C'est vraiment un maniaque de hockey. Et l'autre chose, c'est qu'il dit qu'il faut justifier la construction du centre Vidéotron qui a coûté 400 millions. Alors, faut trouver des événements à être présentés dans le centre Vidéotron. Mais on l'a vu, t'as pas besoin de payer pour amener des matchs hors concours. On l'a vu, les Pingouins de Pittsburgh ont passé 4 jours en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n'a pas payé une scène pour ça. Il a parlé de l'expansion en disant que, puis là, il y a un calcul assez compliqué qu'il nous a fait hier. On n'a pas vraiment compris, là. Mais semble-t-il que les chances de retour des Nordiques sont assez minces. Et les 5 à 7 millions vont servir à payer les déplacements, l'hébergement, les repas des joueurs, du personnel des Kings, des Bruins et des Panthers de la Floride. Il va aussi dédommager les propriétaires des Bruins et des Panthers pour les revenus perdus pour les deux matchs qui auraient été normalement joués dans ces deux villes américaines. Faut savoir que les Panthers de la Floride, là, un match hors concours en Floride, ça va attirer à peu près 2000 personnes. À Montréal, on remplit, je vais vous donner un exemple, à Montréal, on remplit le building pour les matchs hors concours. T'as pas le choix. Quand tu prends un billet de saison, faut que tu achètes les matchs hors concours. Alors souvent, le Canadien va inviter un club qui, lui, sera pas capable d'attirer de monde pour un match hors concours, va les inviter à venir jouer à Montréal. À une certaine époque, c'était comme ça. Va leur donner un montant d'argent, 200, 250 000 $, va payer des dépenses et en retour, va demander à ce club, ben écoute, peux-tu habiller, assure-toi que 2-3 de tes vedettes soient en uniforme. C'est arrivé il y a quelques années avec les Pingouins de Pittsburgh, et là, on avait dit, est-ce que Crosby peut jouer? Est-ce que Malkin peut jouer? Puis en retour, ben, on va vous donner un montant d'argent puis payer des dépenses. Et les clubs aiment mieux ça parce que c'est plus payant pour eux autres que de jouer un match hors concours dans leur ville. Les Panthers de la Floride, là, ils attireront pas 18 000 personnes pour un match hors concours. Ils le font pas en saison régulière. Alors, tu vas les dédommager pour quoi? Pour rien. Pour rien, parce que honnêtement, ces gens-là font pas une scène là-bas. Fait que c'est pas. Tu leur fais une faveur en les invitant ici. Fait que t'es pas obligé de leur donner 7 millions là, pour les convaincre de venir jouer ici. Alors, évidemment, il y a plusieurs réactions. Enrico Ciccone, qui s'y connaît, lui en a joué des matchs hors concours dans sa carrière, va être avec nous pour parler de cette histoire qui crée de la grogne, non seulement dans la population, mais au sein du caucus de la CAQ. On l'a vu hier, plusieurs députés là qui sont pas très, très contents, probablement qu'ils se sont fait dire par leurs électeurs que ça n'avait aucun sens. OK, on est de retour pour parler de la scène municipale. Maintenant, c'est maintenant officiel. La présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu, a été congédiée hier en raison de ses dépenses excessives qui constituent une faute grave selon les élus. Pour cette raison, elle ne pourra toucher l'indemnité de départ prévue à son contrat. Ça correspond à un an de salaire, soit environ 160 000 $. On a aussi mandaté officiellement la vérificatrice générale de la ville pour réaliser un audit de performance de l'organisme. C'est le directeur général de la ville, Serge Lamontagne, qui va assumer la direction pour les prochaines semaines, le temps qu'on trouve quelqu'un pour gérer l'organisme. Et entre-temps, il y a le secrétaire de l'organisme qui, lui, n'a pas du tout l'intention de démissionner. On l'a dit tantôt, c'est le défilé des champions de la Coupe Grey dans les rues de Montréal aujourd'hui. Ça va débuter à 11h30 ce matin. Les Alouettes, champions de la Coupe Grey, qui vont défiler à partir de 11h30 et pendant environ 45 minutes, une heure. Le départ va se donner au coin des rues Crescent de Maisonneuve et on va descendre jusqu'au parterre du quartier des spectacles où les joueurs vont prendre la parole. Alors, on invite les gens à se rendre sur place en espérant que la météo puisse collaborer un petit peu. Sinon, ça va être présenté. Écoute, je sais que Luc Ferrandez va faire une partie de son émission sur le défilé des Alouettes et ça va être à la télévision également, TVA Sports et à RDS aujourd'hui. Ottawa qui a procédé à une mise à jour économique hier. Tout ce que l'on retient, c'est que le déficit ne baissera pas au cours des prochaines années. Au contraire, le déficit va aller en augmentant et que l'encre rouge va continuer à couler à Ottawa. C'est ce qu'on écrit aujourd'hui. D'ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le gouvernement Trudeau n'a jamais présenté un budget équilibré et ce sera le cas encore. On justifie ça en disant que la dette nette du Canada demeure plus faible aujourd'hui que dans tous les autres pays du G7. Esther en a glissé un mot tantôt. Des mesures pour favoriser l'accès au logement. Mais là-dedans, il y a des mesures qui avaient déjà été annoncées il y a quelques semaines. Et plutôt en journée, on apprenait que l'inflation avait ralenti à 3,1% au cours du dernier mois. Et je vais terminer. Pour ceux qui se cherchent un endroit en Floride, le somptueux penthouse, c'est le Journal de Montréal qui nous parle de ça ce matin, le somptueux penthouse à Miami, de l'ancien magnat des résidences pour personnes âgées, Réal Bouclin, a été mis en vente pour la somme de 54 millions de dollars. Ça, c'est 75 millions de dollars canadiens. Et sur l'affiche, on dit « Ne manquez pas cette occasion unique de posséder le pinacle du luxe de South Beach ». L'affiche précise que le penthouse est situé dans un immeuble conçu par le célèbre designer Philip Stark dans un secteur exclusif de la ville. C'est que M. Bouclin s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites au mois d'août dernier. L'unité de M. Bouclin se déploie sur trois niveaux, trois étages, et est décrite comme rien de moins qu'un chef-d'œuvre. Elle comporte un ascenseur privé et offre une vue à 360 degrés sur le centre-ville de Miami, l'océan, la baie et la plage. Alors, avis aux intéressés, 54 millions de dollars américains ou 75 millions de dollars canadiens, et vous allez habiter ce qui semble y avoir de plus beau à Miami comme condominium.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, le conflit de travail entre le Front commun et le gouvernement a atteint une vitesse supérieure hier. 420 000 travailleurs ont amorcé un mouvement de grève de trois jours. Va s'ajouter à ça demain les syndiqués de la FAE qui vont déclencher une grève générale illimitée. Et pour parler de ce conflit, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, est avec nous. Monsieur Gingras, bonjour.
Bonjour, M. Kreit.
D'abord, M. Gingras, il y a un sondage ce matin qui doit vous faire plaisir. On dit que 7 Québécois sur 10 appuient le mouvement des travailleurs.
Ben, si je pense que vous le dites, ça fait surtout plaisir aux travailleuses et travailleurs qui sont sur les lignes de piquetage depuis hier. Et dans le fond, ce message-là de la population, puis si on regarde encore plus loin, là, ceux directement touchés, notamment les parents, parce que les écoles, là, on monte à 8 sur 10. Alors, ce que ça démontre là, à ceux qui sont là dans la rue là et qui ont voté pour ces mandats-là, ce que ça dit, c'est que la cause est juste. Et les parents, la population, c'est que, écoutez, au nombre de milliards des gens partant qu'on met dans nos services publics au Québec, bien, on veut que les services soient là. Et pour ce faire, bien, il faut qu'il y ait des gens pour les donner. Et c'est ce monde-là qui sont dans la rue présentement. Et moi, je le dis toujours, là, c'est pas la négociation, ni la grève d'Éric Gingras, ni de mes collègues du Front commun. c'est celle des travailleuses et des travailleurs qui sont sur les lignes de piquetage depuis hier.
On a remarqué hier, il y avait beaucoup d'enthousiasme sur les lignes de piquetage. Là, votre rôle, ça va être de garder cet enthousiasme-là, là.
Ben, ça, c'est certain, mais l'enthousiasme est là, comme je le dis, parce que les attentes sont grandes. On sent l'appui de la population. Hier, je me suis promené, là, un peu partout. Je suis allé du côté de Saint-Hyacinthe, de Victoriaville, de Drummondville, puis on a vu même des parents sur les lignes de piquetage en appui. Le concert de klaxons, ça ment pas, puis là, on voit le sondage ce matin. Alors, oui, il faut garder ça, mais le but, faut pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire des lignes de piquetage. L'objectif, c'est une entente de principe, c'est un règlement satisfaisant pour permettre d'améliorer les services publics. Et pour ce faire, ben ça va se faire quand même à la table de négociation et non pas à coup de publication puis de point de presse, si on le sait. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a demandé un conciliateur dans le dossier puis qu'on veut que ça avance dans les prochains jours puis que ça débloque, là.
Parce que, on regarde ça, l'écart semble énorme entre les deux parties, surtout qu'on semble pas s'entendre sur ce quoi on va négocier. Vous aimeriez parler de salaire, ils veulent parler d'enjeux d'organisation.
Nous, on est prêt à parler des deux parallèlement. Les salaires, c'est un point important, mais si vous demandez notamment à des professionnels, hein, les orthophonistes, les psychoéducateurs, ces gens-là qui travaillent directement avec les élèves, le personnel de soutien et les profs, ils vont dire on veut aussi parler d'organisation du travail. Puis, vous savez, lorsque Sonia Lebel a annoncé l'élagage que le gouvernement faisait, ben nous aussi, on le fait. Mais là, présentement, ça bloque. Parce que vouloir parler d'organisation du travail, c'est pas juste vouloir parler des solutions du gouvernement, mais des nôtres aussi. Qu'un principe de négociation bien facile, si on se met à juste parler des enjeux du gouvernement, on les règle, je pense pas qu'il va être bien, bien intéressé à parler des nôtres par la suite. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit négocions, puis négocier, c'est des transactions, c'est des échanges, puis on est prêt à le faire.
Avez-vous confiance que le conciliateur puisse débloquer les choses?
Ben, on a confiance que c'est un pas dans la bonne direction. Le Conseil du Trésor a décidé d'embarquer. Maintenant, il va falloir que les deux parties démontrent de la volonté. Mais surtout, là, commence à être mini moins une, si on veut, de part et d'autre, parce que c'est notre cas, nous autres aussi, régler avant les fêtes, là. Le but, c'est ça. Le but, c'est que, après les fêtes, lorsqu'on parlera de l'année scolaire à venir, lorsqu'on parlera des vacances pour les collègues en santé, lorsqu'on parlera de l'été, la réorganisation du travail, etc., ben, il va falloir qu'on ait un nouveau contrat de travail. Dans ce sens-là, il va falloir que ça se mette à débloquer. Nous, on est disponible 24 heures sur 24, on le dit. Des fois, on peine à avoir des dates, mais il faut qu'on se mette au jeu. Là, je pense que la population, à travers le concert de klaxons, à travers le sondage, à travers tout ça, il envoie aussi un message clair qu'on comprend, nous aussi. Allez négocier, et c'est ce qu'on veut faire.
Il a commencé son travail hier, le conciliateur. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé?
Ben, hier, là, on était vraiment dans les échanges de comment on va procéder, qu'est-ce qui va se passer, et il y a eu un début d'échange. C'est sûr que si on veut donner une chance au conciliateur, ben, ça fait partie aussi de je dirais pas une confidentialité, mais ça fait aussi l'idée de laisser travailler. Et pour cette raison-là, ça a débuté hier, ça continue aujourd'hui, ça continue demain, on l'espère, puis les prochains jours, on est disponible, bien sûr.
La dernière fois, quand vous aviez tenu une journée de grève, vous en aviez profité pour annoncer les 3 jours de grève de cette semaine. Vous avez un point de presse commun, là, un peu plus tard aujourd'hui. Est-ce que vous allez annoncer d'autres journées de grève?
Écoutez, l'important présentement, là, c'est laisser de la place à la négociation. Nous, là, notre jeu, ce n'est pas d'être en grève. Notre jeu, c'est pas un jeu, c'est celui de régler. Donc, est-ce qu'on veut donner une chance à la conciliation, à la négociation? La réponse, c'est oui. Donc, nous, l'important, c'est qu'on analyse ce qui se passe là, les prochains jours. Moi, je l'ai dit, là, depuis dimanche, là, en prévision de cette grève-là, j'ai dit que les prochains jours, donc la prochaine semaine sera déterminante. Et là, on est là-dedans présentement.
Là, la FAE embarque dans le mouvement demain, mais elle, c'est pour une grève générale illimitée. Ça fait pas partie du front commun, mais quel impact ou comment ça pourrait influencer vos décisions ou votre mouvement?
Ben, écoutez, premièrement, notons que demain, là, c'est vraiment une journée importante au Québec. Là, il y a près de 600 000 travailleuses et travailleurs du secteur public avec la FAE, la FIC, donc les infirmières, mais aussi les enseignants, le tiers des enseignants du Québec là, qui seront en grève. Donc, il y a vraiment un mouvement important. Tout ce monde-là dit au gouvernement, occupez-vous des services publics. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, ils ont la leur, nous avons la nôtre. Maintenant, l'important, c'est d'être en mesure de négocier et on va vraiment voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer. Et là, ça va un peu traduire la suite des choses et voir qu'est-ce qui va se passer avant Noël.
Monsieur Gingras, merci beaucoup de ces quelques minutes.
Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. On va parler de cette nouvelle qui a été confirmée tard hier soir. Il y a une trêve dans le conflit entre Israël et le Hamas. Il y a un accord qui a été conclu qui prévoit la libération de 50 otages détenus par le Hamas. Il y aura également des prisonniers palestiniens détenus par Israël qui seront libérés. Pour en savoir davantage, on va aller retrouver la journaliste Clotilde Emrako, qui est journaliste indépendante basée à Ramallah, en Cisjordanie. Bonjour, madame.
Bonjour.
Bon, alors parlez-nous de cet accord qui est survenu hier. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les modalités et quand l'échange d'otages et de prisonniers va commencer?
Oui, on en sait un peu plus. Hein. Le Hamas vient de confirmer ce matin qu'il a confirmé la trêve, mais il a aussi indiqué qu'elle prendra effet demain matin à 10h heure locale, donc 3h du matin à Montréal. Et on sait également qu'il est prévu de libérer 50 otages, vous l'avez dit, côté israélien, en majorité des binationaux, des gens qui avaient également une autre nationalité que la nationalité israélienne. Et en contrepartie, 150 prisonniers palestiniens seront relâchés sur 4 jours. Et pendant ce temps-là, les hostilités devraient cesser. Et puis ensuite, chaque fois que le Hamas libérera 10 otages supplémentaires, il y aura encore 24 heures de trêve. Et puis, on libérera en tout, normalement, il devrait également libérer 50 otages et donc encore 150 autres prisonniers palestiniens. Et puis surtout, cette pause humanitaire permettra l'entrée d'un grand nombre de convois humanitaires et d'aides d'urgence qui avaient été compliquées ces derniers temps. Et il rentrera également du carburant, selon le Qatar, qui est le pays qui a joué les médiateurs, en fait, dans la négociation de cette trêve. Alors à Gaza, vous l'imaginez, hein, les gens espèrent que l'aide humanitaire va enfin pouvoir rentrer de manière conséquente. Le ministère de la Santé locale a annoncé que 200 Palestiniens avaient été tués dans les dernières 24 heures à Gaza et donc le bilan total s'élève à au moins 14 000 personnes tuées, dont 5 800 enfants depuis le 7 octobre dans l'enclave palestinienne.
On dit que les prisonniers palestiniens n'étaient pas impliqués dans les attentats du 7 octobre. Qui sont-ils exactement?
Oui, absolument. Ce ne sont pas des prisonniers qui sont en lien avec les attentats du 7 octobre. Israël a déjà publié la liste. On sait que c'est 300 prisonniers palestiniens. Parmi eux, il y a 33 femmes et 123 mineurs qui ont entre 14 et 18 ans. Il y a également des membres du Hamas, une quarantaine environ. La plupart étaient encore en attente de leur procès. Certains avaient été condamnés devant un tribunal militaire, puisque c'est ainsi que les Palestiniens sont jugés, même les mineurs. D'autres encore étaient en détention administrative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment accès à leur dossier, ils n'ont pas de procès, et donc on ne sait pas les charges qui étaient retenues contre eux. Alors aujourd'hui, selon l'ONG palestinienne du Club des prisonniers, il y a 8300 Palestiniens en détention, dont 350 mineurs, et les conditions de détention ont été largement durcies depuis le 7 octobre. Il y a des témoignages qui émergent des prisons israéliennes. Amnesty International déplorait début novembre déjà des cas de torture. Et j'ai également moi-même recueilli le témoignage d'un prisonnier qui avait été déshabillé et forcé de marcher sous les coups de ses geôliers. Donc, on voit bien que cette libération des 300 prisonniers palestiniens, c'est pas grand-chose par rapport au nombre de prisonniers qui sont encore détenus en Israël.
Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on vient de négocier cette entente avec le Hamas, mais le premier ministre israélien a déclaré que la guerre était pas terminée et qu'on voulait toujours éliminer le Hamas.
Oui, alors vous mettez vraiment le doigt sur le plus grand paradoxe actuellement en Israël. C'est parce que donc Israël se dit donc déterminé à éliminer le Hamas, mais finalement c'est bien avec le Hamas qu'il négocie indirectement, évidemment via l'entremise du Qatar. Il n'a pas réussi à libérer les otages tout seul par l'opération militaire, comme le prédisaient d'ailleurs de nombreux analystes. La libération des prisonniers palestiniens, il faut le savoir, c'est l'un des buts annoncés du Hamas après le 7 octobre. Donc finalement, on peut aussi voir cette libération, même si c'est qu'une infime partie des prisonniers, comme une victoire pour le mouvement islamiste. Et puis sur le terrain, hein, si effectivement l'armée israélienne a quasiment repris la ville de Gaza des mains du Hamas, c'est pas non plus forcément une énorme victoire, puisque le Hamas, on peut le voir en fait à partir du 7 octobre, avait plus ou moins laissé tomber l'idée qu'il allait encore gouverner l'enclave palestinienne. Au contraire, il se mettait directement dans la résistance armée, l'opposition armée, et donc renaclait le fait qu'ils allaient garder le pouvoir à Gaza. Les destructions, en revanche, elles sont immenses. Tous les hôpitaux du nord de Gaza ont été attaqués par Israël, des médecins ont été tués, des écoles où se réfugiaient des Palestiniens ont été bombardées, et puis rien que ce matin, il y a ce spectacle terrible hein, d'une centaine de corps qui ont été transportés depuis l'hôpital Al-Shifa, qui est directement occupé par les militaires israéliens désormais, et qui ont été enterrés à Khan Younis. Alors, on voit bien que pour l'instant, les destructions ne sont pas du tout proportionnelles au but de guerre affiché par Israël.
Et on dit que la trêve sera prolongée d'un jour pour chaque dizaine d'otages supplémentaires libérés. Est-ce qu'on a confiance qu'effectivement, là, on pourrait en arriver là?
Ben c'est toute la question en fait, hein. D'ici demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Hezbollah pour l'instant a dit qu'il allait également respecter cette trêve? Est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'il y aura d'autres offensives israéliennes qui feront que la trêve sera mise à mal, ou bien des attaques du côté du Hamas, puisqu'on a entendu des roquettes, des alertes à la roquette encore ces dernières heures? Donc voilà, c'est toute la question qui est ouverte. Est-ce que les otages vont être libérés petit à petit? Est-ce que on va avoir déjà ces quatre premiers jours de trêve effectifs? Et ensuite, enfin, le Qatar a bien dit qu'il fallait être très prudent, que cette trêve était compliquée à mettre en œuvre. Et donc voilà, je pense que ce sont surtout les prochaines 24 heures qui nous diront exactement dans quelle direction on va.
Madame Emravko, merci infiniment de ces informations.
Merci.
Merci. Clotilde Emravko, journaliste indépendante basée à Ramallah, Cisjordanie, qui nous parlait de cette trêve, de cet accord qui est intervenu entre Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Ce qui a beaucoup fait jaser plus près de nous hier, et ça fait plusieurs jours que ça dure, ce sont ces 5 à 7 millions de dollars que le gouvernement va remettre aux Kings de Los Angeles pour tenir une partie de leur camp d'entraînement à Québec et jouer deux matchs préparatoires contre les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. Et au fur et à mesure que l'on tente de justifier ces 5 à 7 millions, on semble s'enliser davantage, s'empêtrer davantage dans nos explications. Pour en parler, quelqu'un qui en a joué des matchs hors concours dans sa carrière et qui est aujourd'hui porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport. Il s'agit de l'ex-joueur de la Ligue nationale, Enrico Ciccone. Salut Enrico.
Salut Alain, merci de me recevoir.
Écoute, ça me fait plaisir Enrico. Qu'est-ce que tu penses des explications que le ministre a données hier? Ben, qu'est-ce écoute, que tu penses de la ligne de centre des Kings, toi?
Arrête, tu voles mon punch. écoute, Alain, moi, là, hier, là, j'étais quand même encouragé. Quand j'ai vu qu'il y avait un point de presse du ministre des Finances, je me suis dit, bon, ils ont vu la lumière, puis il va faire amende honorable. Il va dire, regarde, on s'est couvré, puis qu'est-ce on passe à d'autres choses. J'ai un contrat qui est signé, mais on le répétera plus. Ou dans le meilleur des mondes, ben, on retire, on annule le contrat, on paye la pénalité, puis on passe à d'autres choses. Mais hier, là, il a été confronté. Je ne sais pas si vous avez écouté la période de questions, mais ça a été pratiquement à 95%. C'était justement sur l'avenue des Kings et cette dépense de 7 millions-là. Et au lieu justement d'avouer, de faire amende honorable, il a commencé à parler des trios, la ligne de centre, il a commencé à parler du classement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas t'enfoncer plus que de la façon que le ministre s'est enfoncé hier, puis le premier ministre en a rajouté une couche aussi. Puis moi, il y a une chose que je vais dire là-dessus, là, ce que je trouve tellement, mais tellement dommage qu'on fasse de la politique avec le sport, alors que le sport, c'est tellement sain, c'est tellement beau, c'est tellement rassembleur. Puis aujourd'hui, là, ça divise la province de Québec. Puis ça, là, ben, ça me brise le cœur.
Il y a une chose aussi, quand il dit on veut dédommager les clubs pour les pertes, les pertes engendrées par le fait qu'ils joueront pas de match dans leur domicile. Entre toi puis moi, là, les Panthers de la Floride ne feront pas 7 millions avec un match hors concours en Floride, là.
Non, c'est sûr. Puis, tu sais, ben, je comprends que quand on fait venir des équipes dans une autre ville, ça engendre des coûts. Puis ça, je comprends ça. J'ai même eu l'occasion de parler justement avec mon ancien boss Phil Esposito là-dessus, parce qu'on avait fait un voyage à un moment donné par des formations professionnelles. Mais je l'ai appelé, je voulais avoir de l'information avant de m'avancer. Effectivement, là, je veux dire, c'est normal que tu veux pas perdre d'argent. C'est normal que tu veux au moins faire tes frais dans tout ça. Mais c'est pas avec l'argent du public que tu dois payer ce genre de choses-là. Il y a des compagnies, il y a Gestev, il y a Evenco, des compagnies, des gestionnaires de grands événements qui s'occupent justement de faire... C'est un investissement, ça, pour eux autres. Là. Ils veulent faire des sous avec ça. C'est à eux autres à payer. C'est pas que l'argent du public. Puis hier, encore, insulte à l'injure, hier, il y a quelqu'un qui a posé la question, Alain, en disant est-ce que vous avez des regrets, monsieur le ministre? Ce qui a répondu, il dit oui. Il dit, j'aurais aimé ça payer en 2 et 5 millions de dollars. Je suis câline. Sacrifice. Arrête de t'enfoncer une pièce de trop dans un événement de même avec l'argent du public.
Et non, et il a dit, j'espère répéter l'expérience aussi, là.
Ben encore, en tout cas, parle-moi pas un matin, Alain. Je veux dire, je sais plus quoi répondre à ça. Honnêtement, je sais plus quoi répondre à ça. On dirait qu'on a perdu complètement le sens du Nord. On dirait que le gouvernement est pas capable de gouverner et pas capable. Parce que le gouvernement nous a habitués habituellement, quand il faisait une erreur, il reculait. Parfois, ils se faisaient critiquer. Parfois, on était d'accord avec ça. Bon, mais c'est correct, ils ont réalisé. Mais là, l'opinion publique, puis on sait que c'est un gouvernement qui est bien électoraliste, puis bien populiste. Hein. Ils vont y aller avec les sondages. Mais là, les sondages sont défavorables, pratiquement à 100%. Fait que je comprends pas pourquoi ils écoutent pas la population, puis ils reculent pas. Notamment, les gens de Québec sont contre cette idée-là. Là.
Surtout que il fait un lien entre ça puis le retour des Nordiques, alors qu'à mon avis, ça n'a rien à voir. Là. C'est pas.
Ben non, mais ça, c'est de la poudre aux yeux, là, Alain. Là. Quand tu vois que tu sais plus où t'en sortir, tu es peinturé dans le coin, au lieu de piler, il y a un dicton qui dit, ben, pile sa peinture là, si tu veux t'en sortir, puis avoue, mais non. Mais là, on essaie de parler du retour des Nordiques, alors que le ministre des Finances n'avait même pas invoqué. Il a dit, non, c'est pas pour le retour des Nordiques. Puis trois, quatre jours plus tard, ben, il change son discours, parce que le premier ministre a changé son discours. Fait que, tu sais, quand tu sais plus où tirer puis donner de la tête, là, mais tu vois ce que ça donne.
Surtout qu'on a des exemples comme les Pingouins de Pittsburgh qui sont allés en Nouvelle-Écosse pendant 4-5 jours et ça n'a pas coûté une scène au gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Ben, on est allé, moi, je suis allé à Bathurst avec les Capitals de Washington. Ça n'a rien coûté au gouvernement du Nouveau-Brunswick. On est allé à Vienne. Il n'y a aucun palier de gouvernement. On est allé à Innsbruck, on est allé à Vienne. Le gouvernement de l'Autriche n'a pas payé, puis le gouvernement municipal de Vienne et Innsbruck n'ont pas mis une scène là-dessus. Là. C'est pas de l'argent du public. Mais faut croire que d'autres dirigeants dans d'autres provinces et d'autres pays, eux, savent gérer l'argent du public.
Est-ce que les Kings, on le sait, là, ils doivent quitter Los Angeles parce qu'il y a des réparations à porter à l'amphithéâtre et ils pouvaient pas là, s'installer dans l'amphithéâtre. Est-ce que tu sais s'il y avait plusieurs options sur la table et que le gouvernement s'est embarqué dans une surenchère avec d'autres villes?
Ça, je peux pas te le confirmer, mais la chose que je sais, c'est que c'est le ministre Girard qui a appelé pour faire venir les Kings de Los Angeles. Moi, je m'imagine juste là, Alain, après la conférence de presse où il y avait là Martin Tremblay de Québécois, qui avait de Gestev Québécois, qui avait aussi Luc Robitaille, il y avait le ministre Girard, puis il y avait c'était le ministre de la Capitale Nationale qui était là.
Ouais.
Quand les deux ministres sont partis en limousine. Le party qu'il a dû avoir entre Martin Tremblay puis Luc Robitaille, à coup de high five, on sort le champagne. Hey, on a eu un bon. On a pogné un solide là-dedans. Ils vont tout payer. Puis si nous autres, Joseph, là, on fait pas nos frais, ben, Colin, on va faire de l'argent avec le gouvernement. Écoute, c'est pitoyable. Je sais pas quoi utiliser comme mot, mais c'est insensé. C'est pitoyable.
T'as raison, parce que moi, je m'imaginais Luc Robitaille dans son bureau à Los Angeles, quand il a raccroché, il s'est tourné vers son adjoint, ils ont envoyé d'avoir 7 millions pour jouer deux games à Québec.
C'est incroyable. Puis t'as quoi, c'est Yannick Kopitar pas capable de payer un lunch à Québec, honnêtement.
Hey, merci beaucoup, Enrico.
Hey, merci, là. Bonne journée.
Salut, bye-bye. Bonne journée, Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue nationale et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport. On va parler d'un projet de loi du gouvernement fédéral qui veut encadrer ce qui se dit sur les médias sociaux et particulièrement la haine en ligne. Et on le sait, là, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, a entraîné une forte augmentation des discours haineux. Mais disons qu'il y en avait avant ça, là, et le gouvernement espère encadrer tout ça. Et pour en parler, on va accueillir Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui a co-présidé le groupe consultatif d'experts sur la sécurité en ligne. Monsieur Trudel, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Gray.
Monsieur Trudel, on parle d'un projet de loi, sauf qui est, semble-t-il, assez difficile à écrire et à mettre sur papier. Qu'est-ce qui rend ça compliqué?
Ben, c'est que, en fait, le grand défi, là, c'est de mettre en place ce qu'il faut pour s'assurer d'éliminer les propos qui contreviennent à la loi, comme par exemple le fait de promouvoir la haine contre des groupes ou contre des personnes pour des motifs de race ou de couleur de peau ou ainsi de suite. Alors, il faut s'assurer d'interdire ça, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut aussi protéger la liberté d'expression qui est garantie au Canada, qui est une liberté fondamentale. Et il faut être capable de distinguer entre le propos vraiment haineux, celui qui est vraiment contraire à la loi, et celui qui peut-être est désagréable pour certains et difficile à entendre pour d'autres, mais qui est quand même protégé par la loi. Et c'est ça, l'espèce de jeu d'équilibriste là, qui doit être fait par n'importe quel gouvernement qui adopte une loi sur des questions comme celle-là.
Parce qu'on a entendu, notamment dans le cas de Charkaoui, là, ce fameux discours à Montréal, on dit que quand ça fait appel à tes croyances religieuses ou si tu invoques ton Dieu, ben là, c'est pas tout à fait la même loi qui s'applique, puis que même on peut être un peu plus tolérant dans ces circonstances-là. Est-ce que c'est sur cette ligne-là que vous devez jouer, là?
Ben, c'est-à-dire, il faut que quelqu'un soit capable d'analyser des propos comme ceux-là, là, qu'on considère à première vue comme possiblement haineux, analyser le contexte de ces propos-là, qu'est-ce que la personne voulait dire, qu'est-ce qu'une personne raisonnable aurait dû comprendre de ce qui a été dit dans un discours comme celui-là, et déterminer si ce discours-là correspond à la définition de discours haineux qui est prévu dans la loi. Hein, autrement dit, le discours haineux, c'est pas n'importe quel discours qui fait pas notre affaire. C'est un discours qui a des caractéristiques bien particulières. C'est un discours qui incite une personne à haïr, à détester, à s'en prendre à des gens en raison de leur race, leur religion, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle et d'autres facteurs là, pour lesquels on peut pas faire de discrimination. Alors ça, ce que ça prend finalement, c'est une loi qui met en place des mécanismes pour accueillir les plaintes de ceux qui pensent qu'il y a eu des propos haineux ou des propos harcelants qui ont été prononcés, et un juge indépendant capable d'agir rapidement, parce que là, on est dans le domaine d'Internet, là, ça va vite, hein? On peut pas attendre 5 ans avant de savoir si vraiment, oui ou non, c'était vraiment du propos haineux. Donc, ça prend un système qui fonctionne en ligne, un juge indépendant, capable d'analyser le contexte, capable de dire, ben ça, c'est haineux, bloquez-le, et éventuellement, la personne qui aurait commis ce genre de propos devrait en répondre devant un tribunal. Mais et ça, ben ça veut dire de mettre à niveau nos systèmes de loi. Autrement dit, la technologie a beaucoup évolué, mais la façon dont on applique les lois a encore besoin d'évoluer considérablement pour être capable d'être cohérente là, avec la vitesse avec laquelle désormais les choses comme celle-là se passent sur Internet. Ça se passe à la vitesse de la lumière. Le discours malfaisant peut être repris, relayé, redistribué à l'infini. Et donc, ça prend des moyens conséquents pour lutter contre ça. C'est facile de dire que la haine en ligne, c'est épouvantable. Le grand défi, c'est comment on fait et de quelle façon s'équiper pour lutter effectivement contre ces fléaux.
Quand vous dites un message peut être rediffusé à maintes reprises, il y a aussi la question de retracer l'origine du message sur les médias sociaux. Ça peut être compliqué aussi, là.
Absolument. Il faut, là aussi, augmenter les ressources et puis les moyens à la disposition des forces de police et des autres organismes. Dans beaucoup de pays, on a mis en place des mécanismes de coopération entre des forces de police, mais aussi les groupes de citoyens. Par exemple, en matière de pornographie juvénile, qui est un fléau important, là, qui fait partie là, de tout cet enjeu là, de contenu dangereux en ligne, ben, il y a des groupes de citoyens qui ou des associations qui monitorent les environnements en ligne et aident les forces de police à identifier les endroits où ça se où ces choses-là sont diffusées et d'où ça vient, qui sont les protagonistes là, qui diffusent en ligne. Dans ce cas-ci, là, du matériel qui est préjudiciable aux enfants.
On parle beaucoup de l'augmentation des discours haineux depuis le conflit entre Israël et le Hamas, mais il faut savoir qu'à l'origine, ça remonte bien avant ça, là, l'idée d'encadrer tout ça, là.
Ça fait très longtemps qu'il y a des projets pour encadrer le discours haineux. Dans beaucoup de pays, on a déjà pris de l'avance. Au Canada, on a pris beaucoup de retard. Et je pense qu'une des explications, c'est le fait que dans le contexte politique actuel, vous avez plein de gens au Canada qui disent que dès qu'on essaie d'intervenir sur quelque chose qui se passe sur Internet, c'est de la censure.
Ouais.
Et donc, il y a toute cette ce discours un petit peu simplificateur là qui probablement n'aide pas là à la mise en place de mécanismes efficaces pour lutter contre la haine en ligne.
Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent servir de modèle en cette matière?
Ben alors, et en Europe, donc l'Union européenne a commencé à mettre en place des mécanismes pour parce qu'essentiellement le principal mécanisme là, pour être efficace là-dedans, c'est d'imposer aux réseaux sociaux puis aux Twitter, X, Facebook et autres réseaux de ce monde, leur imposer une obligation de mieux identifier les risques auxquels sont exposés les usagers de leur réseau. Et se servir des dispositifs techniques comme les algorithmes qu'ils utilisent pour limiter ces risques-là. Par exemple, lorsqu'un réseau social s'aperçoit qu'il y a des gens qui harcèlent d'autres personnes sur des bases racistes ou dans le but de leur faire du tort, ben le réseau social devrait mettre en place ce qu'il faut pour identifier ces risques-là puis éventuellement les limiter le plus possible pour protéger les usagers. Ça se fait généralement par une obligation d'être beaucoup plus transparent pour les réseaux sociaux à l'égard de leurs algorithmes, parce que tout ça fonctionne de façon automatisée. On s'entend là, qu'il y a des millions d'unités d'informations qui circulent sur Internet. Ça se fait pas à la main, hein. Ça se fait en utilisant différents dispositifs techniques. Ben, l'obligation que des lois européennes ont commencé à imposer aux réseaux sociaux, ben, c'est d'utiliser ces dispositifs techniques-là pour limiter les risques auxquels sont exposés les populations qui sont en ligne.
Monsieur Trudel, merci beaucoup de ces explications.
Ben, bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Pierre Trudel, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
OK, c'est le grand jour du défilé des champions de la Coupe Grey. Aujourd'hui, les Alouettes qui vont défiler dans les rues de Montréal. Ça va débuter à 11h30 ce matin. Le départ va se donner au coin de Crescent Maisonneuve et on va descendre comme ça jusqu'au parterre du quartier des spectacles. Et pour en parler, on a avec nous Luc Brodeur-Jourdain, entraîneur de la ligne offensive chez les Alouettes. Salut Luc!
Bon matin!
Écoute, Luc, c'est pas ta première Coupe Grey, mais comment tu te sens ce matin, là? Parce que là, t'es entraîneur maintenant, là.
Oui, Ben, c'est ma première, c'est la première Coupe Grey qu'on a, que j'ai dans mon expérience en tant qu'entraîneur, mais le sentiment est exactement le même. Je suis fébrile, j'ai tellement hâte d'arriver de vivre ce défilé-là parce que ça représente des années de travail pour beaucoup de joueurs qui ont été avec l'organisation dans les dernières années, puis pour les entraîneurs également. C'est comme le point culminant. Ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai dans ma carrière en tant que joueur, ces défilés de la Coupe Grey 2009 et 2010, puis on sait à quel point la ville de Montréal est réceptive au championnat. Donc, malgré la température aujourd'hui, je suis persuadé qu'on va avoir des guerriers. Puis c'est drôle parce que Jason a parlé de nous en tant qu'équipe tout au long de l'année comme étant des postmen. donc, on affronte peu importe les températures, on s'en va sur le terrain, puis on joue, puis on pratiquait dans toutes les intempéries tout au long de l'année. Donc, on va être très, très, très excités de vivre ce moment avec les partisans et la Ville de Montréal, puis les gens de Québec.
Comment ça se passe pour vous depuis dimanche?
Comment ça se passe? Écoute, c'est des festivités. Je crois que les joueurs ont su trouver des endroits où s'amuser à Montréal. Ça, c'est sûr.
Plus qu'à Hamilton?
C'est plus facile puis c'est beaucoup plus agréable. Mais on a, je crois, un esprit festif. C'est le temps de célébrer. C'est tellement de mois d'efforts. Puis, tu sais, à partir du moment où est-ce qu'une saison se termine, évidemment, c'est vraiment drôle parce que mentalement parlant, à partir du moment où est-ce que tu gagnes ou à partir du moment où est-ce que tu as joué le dernier jeu, c'est comme, je sais pas si c'est le cerveau qui est programmé comme ça dans le monde, dans l'univers sportif, mais tu penses déjà à l'année suivante. Mais quand tu termines avec le trophée, tu te dis, OK, la saison est pas finie, il reste des journées à s'amuser, à savourer ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'on fait ce sport-là. C'est pour vivre le moment qu'on a en ce moment, puis on a travaillé tellement fort et tellement longtemps pour le vivre. Que c'est important de le savourer, mais ultimement, dans quelques jours, on va déjà penser à la saison 2024.
Écoute, on parle beaucoup du fameux discours de Cody Fajardo qu'on a vu sur les réseaux sociaux hier. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu étais là, toi, dans la salle quand il a fait ce discours?
Bien, certain que j'étais là. J'étais même, avant qu'il se lève, durant toute la semaine, j'étais assis à côté de Cody. On était à côté, un à côté de l'autre, puis il s'est levé, il est allé à l'avant, puis... je voyais qu'il attendait son tour à toutes les fois que les joueurs se présentaient en avant pour parler, vider le cœur un peu par rapport à cette expérience-là. Puis là, je voyais se lever les fesses. Là, oh non, je vais laisser. OK. Non, c'est pas le temps. Puis à un moment donné, il s'est levé, il est arrivé en avant. Puis Cody est quelqu'un justement de qui laisse pas nécessairement souvent transparaître ses émotions. C'est quelqu'un qui garde ses émotions beaucoup à l'intérieur de lui. C'est pas nécessairement la personne la plus vocale. Puis il se présente en avant, commence à jaser, puis avec un ton serein, doux. Et puis à un moment donné, son just watch me, fuck you, just watch us. ça a embarqué, ça a frappé comme une tonne de briques. Moi, ça m'a mis les larmes aux yeux parce que ça représente beaucoup ce qu'était notre saison, une gang d'underdog, une gang de gars qui autant entraîneurs que joueurs, des gars qui se sont joints à l'organisation. Tu sais, je pense à Lemon, qui était joueur autonome, un vétéran acquéri qui avait eu une bonne expérience dans la Ligue canadienne, mais qui était joueur autonome dont personne ne voulait en début de saison dans leur organisation.
Ça, c'est assez incroyable, moi, t'admettre ça, que ce gars-là était agent libre cet été, là. La façon dont il a joué, dès qu'il s'est joué aux Alouettes, je peux pas croire qu'il n'y a pas un club qui est intéressé à lui, là.
Exactement. Donc c'était vraiment un paquet de gars qui avaient des choses à prouver et puis qui se sont joints l'un à l'autre grâce à une vision primaire qui était on est différent, on est ensemble, on forge dans le chantier également à l'interne. On fait des activités ensemble qui sont à l'extérieur de, mettons, la journée conventionnelle de on pratique nos jeux, on fait des meetings. Non, les gars restaient dans la chambre, jouaient au pickleball, jouaient au ping-pong. Écoute, j'ai jamais vu des joueurs rester aussi longtemps dans une chambre de joueurs quand la journée est, entre guillemets, terminée en termes d'obligations professionnelles. Donc, c'était une ambiance exceptionnelle en tant que saison. Puis ça, de croire en le processus et non pas la finalité. Puis c'est là où est-ce que je lève mon chapeau à Jason, c'est que il a mis en place des moyens, puis il a mis en place des moyens qui faisaient en sorte que les gars tissent des liens étroits et remporter la Coupe Grey, c'est évidemment la cerise sur le sundae, mais tout le monde a eu une expérience exceptionnelle malgré la finalité. Tu sais, ça a été une saison brillante.
Et là, pour la suite des choses, on a toutes les raisons d'être optimistes parce que contrairement à la situation du mois de janvier, pas de propriétaire, pas d'argent pour signer des joueurs qui ont quitté l'organisation. Là, vous allez bâtir sur des bases beaucoup plus solides. Vous avez un propriétaire, un président, un directeur gérant, un coach. Vous êtes les champions de la Coupe Grey. Alors là, ça va être beaucoup plus facile de retenir des joueurs et d'en attirer à Montréal maintenant, là.
Ben, assurément que ça nous met dans une meilleure position que l'on l'était en début d'année dans l'entre-saison 2022-2023. On est assurément dans une meilleure position, je crois, par rapport à la Ligue. Mais ultimement, ce qui est important, c'est de cultiver la faim, c'est de cultiver vraiment le désir d'excellence, puis de rester dans cette dynamique-là, qu'on peut le faire en ayant du plaisir sur une base quotidienne, qu'on peut être attaché les uns aux autres, minimiser au maximum l'aspect, si on veut, des affaires, l'aspect business du côté football, mais beaucoup plus de dire, écoutez, on reste dans une ambiance familiale, on croit les uns envers les autres, on se commet à dire qu'on investit beaucoup de notre temps personnel, que nos familles nous supportent au travers de ce sacrifice familial-là pour la vaste majorité d'entre nous, mais c'est de cultiver la faim et d'emmener des joueurs et d'emmener des gens qui veulent se marier à cette dynamique-là. Et je crois que ça part évidemment du travail qui est fait durant la saison morte avec Danny, puis les gens qui recrutent, évaluer le personnel qui est disponible au-dessus de la frontière, au nord de la frontière, et d'assembler la meilleure équipe pour 2024.
Ben, Luc Brodeur-Jourdain, on te souhaite un bon défilé, belle journée aujourd'hui.
Merci beaucoup. Présentez-vous en grand nombre. C'est un moment exceptionnel pour nous.
11h30 ce matin, coin Crescent, Maisonneuve. Merci, Luc.
Hey, merci beaucoup tout le monde.
Bye, bonne journée. Luc Brodeur-Jourdain, entraîneur de la ligne offensive des Alouettes. Ça commence à lui faire un beau palmarès. Il a gagné la Coupe Vanier avec le Rouge et Or, la Coupe Grey comme joueur et maintenant la Coupe Grey comme entraîneur.
C'est 23.